L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Il est 16h30 et le soleil est rieur ce 30 juin 1764 et la jeune Jeanne Boulet, 14 ans, chante. Son père lui a appris il y a peu cette chanson très amusante. J'en ai du fin et du bien râpé, mais ce n'est pas pour ton grand doigt de pied. À l'évocation de cette dernière phrase, elle rit. Le ciel est dégagé. La jeune fille qui rit à gorge déployée bientôt sera la première victime déclarée d'un monstre aussi féroce qu'inconnu. La bête du Gévaudan. Il est 16h30. C'est l'heure H de mon histoire. Notre histoire commence quelques heures plus tôt. Nous sommes dans un coin verdoyant et paisible de l'Ardèche où forêt et présence de l'homme s'entremêlent dans une danse endiablée. Le petit village des Hubacs est un havre de paix pour une communauté majoritairement composée de paysans. Ces gens très croyants s'en remettent à Dieu pour le bon déroulé de leur vie quotidienne, des plantations aux récoltes d'orge et de blé. Elles sont bonnes généralement et, alors que Versailles est le cœur battant de la France, ce petit coin vert, lui, semble en être un des paradis perdus. À la sortie du village, à la lisière de la forêt, se trouvent de belles et riches prairies. C'est là que Jeanne fait paître le troupeau de moutons de son père. Elle en compte 25, accompagnée de quelques agneaux qui courent et tombent en roulade dans les plis du terrain. Malgré son jeune âge, Jeanne est experte en matière de gestion de bétail depuis maintenant 2 ans. Elle revient généralement aux jeunes enfants la tâche d'être les gardiens de ces denrées rares. Les peaux, la viande, il faut scrupuleusement faire attention à les garder en vie, ces jolis moutons. Les protéger des loups, surtout. Le père de Jeanne a été clair. Ces prédateurs n'attaquent pas les hommes, à moins d'être enragés. Toute la communauté le sait très bien. Les loups craignent le contact humain. En revanche, jamais ils ne diront non à une côte de mouton ou un steak d'agneau. Il faut donc être prudent. D'ailleurs, Hector est là pour ça. Hector, c'est le chien de la famille. Un grand berger blanc. Il veille au grain, une oreille levée alors qu'il dort, bien à l'aise sous l'ombre d'un pommier en fleurs. Jeanne est juste à côté de son adjoint à quatre pattes. Un bâton à la main, tout près des jeunes du troupeau. Elle est seule. Son père est au moulin du Seigneur à moudre du grain. Sa mère, comme à son habitude, s'occupe de ses jeunes frères. Le temps est radieux. Les oiseaux chantent. Au loin, le petit étang du village ressemble à une énorme assiette dorée, les éclats du soleil s'y reflétant avec une force qui impressionne la petite Jeanne. Elle rêve déjà de rentrer avec ses animaux afin de pouvoir se reposer. Elle n'aime pas beaucoup travailler. D'ailleurs, c'est généralement ce qu'elle confesse à Dieu le soir, durant sa prière. Encore 2 heures, et elle pourra rentrer. En attendant, une sieste serait la bienvenue. Elle se blottit contre la poitrine de son chien, elle ferme les yeux et, de manière presque instantanée, s'endort. Au cœur de ce sommeil réparateur, elle ne peut distinguer le bruissement des feuilles à la lisière de la forêt. Pourtant, déjà 2 billes jaunes cachées dans les fourrés sont pointées sur elle. Jeanne se réveille un peu plus tard et constate qu'elle a dormi un peu moins 1 heure, en se fiant à la position du soleil dans le ciel. Effectivement, il est 16h15. Hector n'est plus à côté d'elle, mais au cœur du troupeau. Il fait tampon entre les moutons et la forêt. Son poil est dressé, ses babines retroussées, mais il n'aboie pas. Il semble tétanisé, ce qui ne lui ressemble pas. Jeanne ne s'affole pas et va compter ses moutons. 22, 23, 24. Elle recompte une deuxième fois. Ah, c'est clair, il en manque un. C'est un jeune qui a disparu. Oh, elle est sereine. Il est régulier de voir s'éloigner certains téméraires au cours de ses heures passées en pâture. Alors, elle s'éloigne un peu du village, d'Hector et des moutons. Elle longe la lisière, descend un peu dans la vallée en contrebas, ouvre l'œil, mais rien. Elle chante cette comptine que son père lui a apprise. L'histoire du tabac dans la tabatière la fait rire aux éclats. Elle ne perçoit pas le changement d'atmosphère qui se met en place, son oisement autour d'elle. Le soleil se cache derrière un nuage, le vent se lève. Au loin, enfin, Jeanne distingue comme une petite forme blanche, inerte. Plus elle s'approche, plus les taches de sang et les bouloches de laine retrouvées ici et là lui font penser que cet agneau est mort. Certainement, son père va se fâcher fort, c'est sûr. Alors qu'elle rassemble ses esprits, qu'elle reprend son bâton pour retourner auprès des autres et qu'elle s'apprête à ramener la dépouille pour prouver ses affirmations, il lui paraît subitement que quelque chose n'est pas normal. Jeanne entend un craquement dans les branchages dans le bois. Elle sent comme une présence dans son dos. Le loup est-il revenu reprendre le cadavre ? Elle n'ose se retourner. Mais alors que la présence se fait plus insistante, cela devient pour elle une nécessité. Très rapidement, les épaules en avant se grandissant pour faire barrage, Jeanne pivote. Mais au lieu de se trouver face à un loup, c'est un souffle fétide qui accueille son courage. À 6 pas devant elle, les poils hérissés tout le long du corps, la mâchoire en avant, une bête ignoble la fixe de ses 2 yeux d'un jaune éclatant. Une vision d'horreur. La bête a la forme d'un loup, certes, mais elle est énorme et semble peser presque 2 fois le poids du loup que Jeanne a déjà vu dans les bois. La couleur aussi est différente, brune, presque café. Une barre noire sur le dos, un ventre blanc crème, une tête carrée et lourde, le tout ponctué d'une queue étonnamment longue, recourbée au bout. On dirait que la créature va lui parler. À petits pas, elle encercle la fillette, vient presque la humait avant de reculer brusquement de nouveau. Bizarrement, elle ne l'attaque pas tout de suite. Elle prend son temps et semble se nourrir de la terreur grandissante chez l'enfant qui se tient face à elle. Jeanne n'y comprend rien. Pourquoi réfléchir ainsi? C'est donner une âme presque humaine à une bête qui lui paraît tout droit sortie des enfers. Le temps qui passe est une éternité pour la petite fille qui ne perçoit plus rien de ce qui se trame autour d'elle. Happée par les yeux vifs et hypnotisants du monstre, Jeanne ne parvient plus à rassembler ses idées. Il lui faut se détacher de ce regard qui la conduit vers la pénombre, quitter des yeux l'animal, l'espace d'un instant, au moins pour tenter de penser. L'instinct de survie est un sentiment bien particulier, et cet état d'esprit primitif, venu des temps anciens, de l'époque où l'homme était un être bien plus vulnérable qu'aujourd'hui, va aider la jeune fille. Elle respire profondément. Les poils sur le dos de son ennemi mortel se hérissent. Ses babines sont retroussées. Sa langue passe sur ses dents de carnassier aussi grandes que des couteaux. Ses griffes paraissent des lances. La créature qui se tient devant Jeanne, sans avoir besoin de le matérialiser par la parole, est prête à passer à l'attaque. Et puis soudain, un miracle se produit. Le regard de Jeanne est attiré au loin par une biche qui saute dans les buissons. La jeune fille réussit alors à quitter les yeux du monstre pour reprendre pied dans la réalité. Elle parvient enfin à réfléchir, l'espace d'un instant. Hector est loin, trop loin. Le troupeau aussi. Derrière elle, l'étang peut être une bonne option de repli. Une solution s'impose alors. Courir jusqu'à la cabane du pêcheur en contrebas. Elle n'est qu'à 5 minutes tout au plus. Prenant son courage à 2 mains, elle jette son bâton à la gueule du monstre pour tenter de faire diversion et détale comme un lapin dans les hautes herbes. Surtout ne pas se retourner. Le sol se charge de lui faire comprendre qu'elle est poursuivie. Un pas lourd et rapide la traque. « Non, papa, pense-t-elle. Si seulement je t'avais écouté. Oh, Seigneur, si seulement je n'avais pas été si oisive. » La cabane est proche, mais elle sent les vibrations se faire de plus en plus pressantes. Alors, dans l'espoir que quelqu'un l'entende, elle hurle à plein poumon. Mais c'est trop tard. Déjà, la bête est sur elle. Déjà, elle la plaque au sol. Et alors qu'elle tente de se débattre, Jeanne est égorgée, à la manière d'un agneau qui s'est trop éloigné de sa mère. Hector, accouru au cri de sa petite maîtresse, a assisté au loin à la scène. Il s'empresse à grandes enjambées de fuir la mort et de tenter de prévenir les parents de la petite. Les moutons, eux, n'ont rien compris. Paisiblement, ils continuent de brouter, à peine secoués par l'attaque qui a coûté la vie à l'un d'entre eux. La bête du Gévaudan vient de faire sa toute première victime déclarée. Jeanne Boulet venait de fêter ses 14 ans. Son corps sans vie jonche maintenant le sol frais de l'Ardèche. Le monstre, lui, retourne dans la forêt, un filet de sang coulant le long de ses gencives. La bête du Gévaudan devient une réalité pour la population de l'Ardèche. Ce n'est qu'un commencement. Le lendemain de cette attaque, Jeanne est enterrée, sans aucun sacrement, car elle n'a pas pu se confesser. Tout le monde pense à une attaque de loup, rien de plus. Mais pourtant, quelques doutes émaillent les discussions autour de la bête. La petite a été retrouvée égorgée. Quel genre de loup est capable de ça? Les villageois n'ont pas le temps de réagir que le 8 août, la bête fait une deuxième victime un peu plus loin, dans la vallée de l'Allier. Son âge? 14 ans. À la fin du mois et au début de l'automne, des premières battues sont organisées, sans aucun succès. En effet, le monstre semble avoir bougé. Durant cette période, c'est dans la forêt de Mercoire, 11 000 hectares au cœur de la Lozère, qu'apparemment elle sévirait. Plusieurs attaques sont recensées là-bas, pas toutes mortelles. Mais le mode opératoire est le même. Surprise et violence sont en première ligne. Les premiers témoignages parviennent aux oreilles des autorités. C'est la stupeur à la lecture de ces écrits qui parlent d'une bête bien plus grande que ce qu'on a déjà pu voir, plus féroce, plus intelligente aussi. Versailles est informé de ces décès qui s'accumulent et de la sinistrose qui guette cette partie pourtant si paisible du royaume. Les enfants craignent de sortir des troupeaux. Certains parents les empêchent même de le faire, préférant garder leurs ouailles en vie plutôt que les retrouver déchiquetées. La forêt de Mercoire devient une forêt noire, sombre, en proie à toutes les légendes. Le gibier, habituellement présent en quantité importante, se fait rare. Les disparitions et les meurtres sont bientôt des éléments du quotidien dans cette zone géographique immense. La bête semble parcourir des étendues de plus en plus vastes, comme si elle pouvait se démultiplier. Les théories les plus folles s'emparent des cœurs et des âmes. Les sermons lors des messes du dimanche ne portent plus que sur la miséricorde du Seigneur et sur l'importance de résister face à ces épreuves qu'il leur envoie comme pour tester la foi de la population. Des chasseurs, ici et là, s'organisent en milices. Mais chaque battue est vaine. Personne n'aperçoit la bête. L'espoir semble de plus en plus ténu lorsqu'une troupe de militaires présente dans la région décide de prendre en main ce problème de plus en plus insistant. Les troupes légères de Clermont-Prince, formées de cavaliers expérimentés, sont fatiguées d'entendre ces récits qu'ils estiment n'être que des légendes. La bête? Un loup enragé, rien de plus. Oh, ils en ont vu d'autres, eux, sur les théâtres des opérations de l'Europe. Le capitaine Duhamel prend avec lui quelques dizaines de ses soldats et décide également d'armer les paysans assez valeureux pour les accompagner. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel se trouvent ces hommes qui, pour la plupart, n'ont jamais été habitués à chasser d'autres animaux que le lapin. Les voilà aujourd'hui enrôlés dans une brigade qui traque un monstre. Les témoignages des enfants, bien que certains adultes aient tenté d'en rire tant ils paraissent incongrus, font frémir. Difficile de ne pas être terrifié quand on a vu les corps mutilés des petits. Le choc est tel que les courageux ne sont pas si nombreux qu'il y paraît. Beaucoup d'autres préfèrent rester chez eux pour tenter de protéger leur famille. Les troupeaux sortent moins ou alors les jeunes sont accompagnés. Plus de chiens et un adulte juste derrière. On perd du temps et de l'énergie, mais tant pis. On essaie de sauver ses enfants. La veille du lancement de la traque, les officiers rassemblent les hommes, stimulent le courage et rassurent les cœurs. Tout est prêt pour mettre un terme au règne de l'horreur. Et tous semble enfin y croire. La traque peut ainsi commencer. Leurs uniformes ocre et rouge se mêlent avec efficacité aux couleurs de l'automne. Les chasses se multiplient à compter du 15 septembre. Des loups sont tués, beaucoup même. Des meutes entières sont massacrées, mais rien ne semble sortir de l'ordinaire. Pas de trace d'un animal roux, immense, à l'odeur aussi fétide que la mort. Rien que des louves et des louveteaux apeurés par le poids de la présence humaine dans la forêt. Durant l'automne 1764 jusqu'au 1er froid d'octobre, les chasseurs ne retrouvent rien. Tout au plus, quelques indices ici et là. Des touffes de poils, des traces inhabituelles d'un nid provisoire. Mais les habitudes de leur ennemi semblent être très éloignées du mode de vie des loups. Cela rend alors la chasse très compliquée. Il est impossible, dans ces conditions, d'être efficace. Pire, la seule conséquence de cet important déploiement de soldats est la migration de l'animal, qui est assez malin pour s'enfuir devant ce rapport de force à son désavantage. Mais comment un animal peut être doté d'une telle intelligence face au danger? Tous se posent d'innombrables questions qui restent sans réponse. La bête, elle, est déjà loin. Le 7 octobre, une incroyable histoire a lieu dans les confins de l'Aubrac. Une jeune fille âgée de 11 ans est attaquée alors qu'elle garde les oies de sa famille tout près du village d'Apché, en lisière de la forêt de Prunières. L'attaque est d'une violence inouïe. Comme si l'animal voulait se venger de cette traque menée contre lui. La fillette est tuée tout près du village alors que la bête garde habituellement ses distances avec les zones d'habitation. Le corps est retrouvé décapité et la tête est manquante. Horrifiés, emplis de colère, les villageois en ont assez de s'en remettre à Dieu et aux autorités. Ils prennent les armes, massivement. Le lendemain, 8 octobre, un jeune vacher se promène au milieu de son troupeau dans des prairies jouxtant le village. Soudain, sortant des bois, la bête, immense, se dresse face à lui et le charge pour l'attaquer. Mais le garçon a le réflexe de se réfugier au milieu des animaux, parmi lesquels se trouvent quelques bœufs. Quel pouvoir que l'amour animal! Une force inouïe est capable de naître des liens qui unissent les êtres sensibles, dont les hommes et les animaux, tels des phares dans l'obscurité. Les bœufs font barrage et, au lieu de laisser leur jeune gardien mourir, décident de le sauver. La bête du Gévaudan, pour la première fois, est repoussée. Confuse, apeurée par le courage que ces animaux à cornes déploient face à elle, la bête court se cacher derrière les fourrés à la lisière de la forêt, mais reste néanmoins à proximité du garçon. Ce dernier n'ose plus bouger, de peur d'une nouvelle attaque. Les forces en présence se jaugent. Les bœufs et le jeune homme d'un côté, sous la lumière. Des dents acérées et des yeux jaunes de l'autre, dans l'obscurité de la forêt. Rien ne bouge pendant quelques heures. Les forces se faisant face de manière équilibrée. Et comme c'est le cas parfois, c'est l'intervention d'une troisième partie qui va faire basculer l'affrontement. Quatre chasseurs, à la recherche de la bête, tombent sur le troupeau du jeune homme en sillonnant les bois. Parcourant la lisière du regard, stupéfait, il découvre l'animal. Il est là, les yeux rivés sur cette proie juvénile qui lui a échappé. Ils sont quatre pour deux fusils. L'animal, lui, se décide enfin à approcher du jeune homme. Alors il faut agir, vite. Vous devez savoir que les fusils de l'époque ne peuvent pas se recharger comme nos armes modernes. 12 temps, 18 mouvements, une minute par chargement. Et surtout, leur portée est faible, le tir imprécis. Leur ennemi est loin, mais s'approcher plus, ce serait prendre le risque de le faire fuir, ou pire, qu'il se fasse aussi attaquer par le monstre. « Vite !» crie l'un d'eux, car l'enfant n'est plus qu'à une dizaine de pas. Enfin, les fusils sont prêts. Les deux meilleurs tireurs se saisissent des armes. Calmement, ils posent leur respiration. Encouragés par leurs deux camarades, ils le savent. Ils ne disposent chacun que d'une seule balle pour faire mouche. Le premier, calquant le canon de son fusil le long de la poitrine de sa cible, tire. La bête, dans un cri rauque et puissant, s'effondre. Ils l'ont eue, elle est morte, mais aussitôt, elle se relève dans un horrible râle de souffrance. Alors, le deuxième tireur frappe, lui aussi, et il la touche. Cette fois, l'animal reste debout et les fixe. Mais, effrayée par la douleur extrême qui la saisit, elle opère un demi-tour et s'enfuit vers les ombres, au cœur de son royaume. Les chasseurs, galvanisés par ce premier succès sur le mal, se précipitent dans le bois vers lequel elle s'est échappée. Les traces de sang sont partout, projetées jusqu'à une hauteur de plus de 2 mètres. La peur les tenaille et, les jambes flageolantes, ils ne parviennent pas à la rattraper. Le lendemain, une battue de grande ampleur est organisée dans toute la région. Mais rien, rien. Elle s'est échappée du côté méridional. Elle y fait des attaques plus meurtrières encore. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. En novembre, les cavaliers reviennent près du village où le jeune Vaché a survécu. Mais ils sont piégés par les éléments. Des chutes de neige empêchent toute traque. Ce n'est que le 11 novembre que les premières battues des militaires peuvent être lancées. Les états du Languedoc se réunissent et promettent une prime de 2000 livres à qui tuera l'animal. Une fortune pour l'époque. Cette réunion, qui se déroule le 15 décembre, est réalisée en marge de 5 nouvelles attaques attribuées à l'animal. À l'aube de l'année 1765, la guerre est officiellement déclarée. La foudre des hommes, bientôt, va s'abattre sur le Gévaudan.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se consacre à l'un des épisodes de l'histoire de France les plus mystérieux. Les attaques de la fameuse bête du Gévaudan. Toute la deuxième partie de l'année 1764, les assauts répétés d'une bête monstrueuse font souffler un vent de panique dans les communautés paysannes de plusieurs régions du pays. Par 2 fois, à la suite de tirs de chasseurs, la bête a été touchée, mais contre toute attente, elle a pu regagner son sinistre repère et les battues qui ont suivi n'ont rien donné. Le pays a peur. Versailles, mis au courant, met à disposition de ses concitoyens un régiment militaire afin de traquer le monstre. Mais rien n'y fait. Personne, alors qu'on dénombre maintenant 100 d'attaques, n'arrive à mettre la main sur ce loup qui n'en est pas vraiment. Mais patience. Certains, plus malins que d'autres, ont échafaudé des plans qui semblent imparables sur le papier. Nous sommes le 12 janvier de l'an 1765. Au cœur de la Haute-Loire, non loin du cœur de l'Auvergne, qui est le Puy-de-Dôme, se dresse la petite commune de Chanaleil. L'entité médiévale fait front face aux confins de la Lozère non loin. Le vent qui souffle ce jour d'hiver est de mauvais augure. Ici aussi, la nouvelle d'un ennemi invisible capable de dévorer des enfants et d'emporter leurs têtes s'est répandue dans la région. Le crâne tout entier d'une jeune victime qui avait été emportée a été retrouvé 8 jours plus tard dans les bois. L'horreur absolue. Alors, dans le village, les adultes ont mis en place des stratagèmes. Arrêter de faire travailler les enfants n'était pas une option. L'hiver, leur rôle est déterminant, car les adultes, eux, sont aussi bien occupés. En revanche, mutualiser les troupeaux durant les temps de sortie, ça, c'est une idée qui a du sens. Ainsi, les petits bergers et bergères, eux aussi, peuvent rester ensemble. C'est donc de cette manière que s'avancent, les pieds dans le givre et la tête dans le brouillard, une petite bande de 7 garnements, tous plus courageux les uns que les autres. À leur tête, une tignasse blonde en brosse et des yeux clairs. Jacques Portefait, c'est lui, du haut de ses 13 ans qui est en charge de la répartition du bétail aujourd'hui. On n'y voit rien. La forêt est proche et soudain, un pressentiment l'assaille. Il décide donc de garder auprès de lui les 6 camarades qui l'accompagnent, tous armés de bâtons. Plus personne ne rit, ne parle, ne chantonne. Ils jouent leur vie à chaque sortie dans les pâturages. L'atmosphère déjà a changé. Les quelques corbeaux qui sont là bientôt fixent un point au loin et s'envolent, comme poursuivis par la mort elle-même. Autour d'eux, dans la vallée, un souffle rauque, instable, bestial, s'est installé. Il arrive à leurs oreilles, se répand comme une traînée de poudre. Jacques a compris, tout de suite. Il fait placer ses amis en carré, les bâtons en avant. Lui est au milieu pour coordonner les opérations. Comme sur un terrain militaire, tous sont prêts à subir un choc qui va venir. « soudain sur leur gauche, un hurlement terrible provient d'un des moutons. Cela vient leur prouver, s'il le fallait encore, qu'ils courent un grand danger. L'un des enfants propose de quitter le carré pour aller vite prévenir le village. Non, ce serait une erreur fatale. Peut-être que pour le moment, la bête qui est là ne les a pas reniflés. Il se trompe. Avant même d'avoir pu sentir son haleine fétide, voilà qu'elle arrache la joue du petit Louis. C'est tout juste. Si Jacques a pu voir surgir cette gueule énorme et laide comme le malin, avant qu'elle retourne dans l'obscurité. Louis est ramené à l'intérieur du carré et Jacques prend sa place. À côté de lui, très rapidement, Joseph se met à hurler. Son bras est dans la gueule de la créature. Dans un mouvement de craquement abominable, elle emporte l'enfant en direction du bois. Certains du groupe suggèrent de détaler pendant qu'elle est occupée avec leur ami. Mais face à ces pleutres, Jacques s'oppose. Il faut l'aider. Le terrain vallonné permet de vite rattraper l'animal ralenti par le brouillard et le sol accidenté. C'est chose faite. Jacques frappe de toutes ses forces, tente de viser les yeux, de le faire lâcher prise. Et c'est un énième coup, droit dans la rétine, qui a raison de la force des mâchoires du monstre. Entre-temps, alertés par des cris, des adultes du village sont arrivés, mais l'animal dans le brouillard s'est déjà échappé. Le petit Joseph ne perdra pas son bras. Louis, lui, restera infirme à vie. Le roi étant rapidement informé du courage de Jacques, il ordonnera que la couronne lui paie son instruction. Il finira lieutenant d'artillerie du roi. Une avancée extraordinaire pour un jeune de sa condition. Mais alors qu'il est âgé de 33 ans, assailli de cauchemars et de terreurs nocturnes depuis sa rencontre avec le monstre, il mourra prématurément en 1785. La bête du Gévaudan, elle, continue de sévir. D'autres attaques de ce genre se multiplient les jours et semaines suivantes. On se souviendra de celle de Jeanne Jouve, une femme qui parvient à arracher à la bête trois de ses enfants. L'un d'eux, hélas, mourra des suites de ses blessures. Le climat est particulièrement pesant. Le royaume entier est paralysé par la peur. Versailles décide d'envoyer sur place le plus grand louvetier du royaume. Son nom, Denval. Il a à son actif près de 1200 loups tués. Denval revendique tout de suite l'exclusivité des chasses et fait affecter ailleurs le régiment militaire qui pourtant traque la bête depuis bientôt une année complète. Le 1er mai 1765, alors que la bête s'apprête à attaquer un jeune berger âgé de 15 ans, un homme du village, situé à 200 mètres, la voit de sa fenêtre. Il sort avec ses frères en trombe en armes et tire sur la bête. Blessé par deux tirs, la bête se relève et s'enfuit encore. Elle semble immortel, tout droit sorti des enfers. Ses yeux jaunes perçants lancent des éclairs en direction des chasseurs. Rien, absolument rien, ne semble en mesure de l'arrêter. Enfin rien. C'est un bien grand mot. Il y aura bien quelqu'un pour y arriver. Un sous-lieutenant de la capitainerie royale, autant vous dire, un officier qui vaut le détour. Il s'appelle François-Antoine et bientôt, il se couvrira de gloire en tuant la bête du Gévaudan. Alors qu'il se trouve à proximité, le 20 septembre 1765, des villageois l'informent que le monstre a été aperçu au creux du bois des Dames, tout près de l'abbaye royale des Chazes, tout un symbole. Investi d'une mission divine, voilà notre sous-lieutenant parti à la poursuite de la bête, accompagné de quelques compagnons. C'est tout de même étonnant, jamais elle n'a été aperçue de ce côté de l'Allier auparavant. Mais soit, la chasse est lancée et elle sera de courte durée. Le bois est cerné par 40 tireurs. Au cœur de celui-ci, la petite troupe menée par l'expérimenté tireur. Ils n'ont pas encore marché 20 minutes qu'à 50 pas d'eux, ils débusquent l'animal. L'écume aux babines, ils tentent de s'enfuir. Antoine tire. Elle s'effondre. Mais quand il s'approche, elle se jette sur lui. C'est l'un de ses compagnons qui finalement l'abat à bout portant. Procès-verbal attestant du décès est dressé à la hâte et de suite. Le fils de l'officier charge l'animal sur un cheval et prend la direction de la capitale. On fait d'abord naturaliser l'animal à Clermont-Ferrand, Puis, sur ordre de la cour, on ramène la bête à Versailles. Le roi Louis XV pose sa main divine dessus. Tout le pays est enfin rassuré et peut recommencer à dormir sur ses deux oreilles. La bête du Gévaudan, enfin, est morte. Du moins, c'est ce qu'ils croient tous.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H revit un épisode extraordinaire de l'histoire de France. Celui de la bête du Gévaudan et de la traque qui s'en est suivie. Plus de 150 attaques, presque une centaine de morts. Elle sème la mort dans son sillage. La catastrophe est d'une telle ampleur qu'un régiment militaire et les plus grands chasseurs de loups du pays se ruent à ses trousses. En vain. Jeunes garçons et jeunes filles, parfois même des bébés, meurent les uns après les autres. Et heureusement, après plus d'un an de crimes, la bête est tuée le 20 septembre 1765. Présentée à Versailles, sa dépouille sera exposée dans les jardins du roi. Louis XV lui-même la touche de sa main, rassurant par ce geste l'ensemble du pays. Il en est fini de la bête, du moins, c'est ce qu'ils croient tous. Nous sommes le 1er janvier 1766. Voilà plus de 4 mois que la bête a été tuée. D'ailleurs, rien ne permet de dire que le tireur n'a pas tué le bon animal. En effet, pas une seule attaque dans le mois de novembre. À partir de décembre cependant, des bruits refont surface. On parle ici et là dans l'Allier et en Lozère de nouvelles attaques. Mais chaque fois, les autorités locales, sachant la bête morte, pensent à des attaques de loups. Pour autant, aujourd'hui, la donne est différente. Un courrier vient d'arriver à Versailles. Il est signé de la main de l'intendant d'Auvergne. À sa lecture, le vieillissant Louis XV a la main qui tremble. Une dizaine d'attaques au moins, en moins d'un mois. Le mode opératoire est le même que lors des agissements de cette foutue bête. Mais pourtant, par peur ou par pure autoconviction, il balaie cet avertissement d'un revers de la main. Il est mort, ce monstre, depuis des mois. Il en a déjà vu la dépouille. Cette fin de non-recevoir est pour la région, victime de ces nouvelles attaques, un message clair. Ils vont devoir se débrouiller tout seuls. Et effectivement, alors que tout indique qu'il est mort, l'animal sévit toujours bel et bien. Des battues maigres, car organisées sans le soutien de la couronne, se déploient sans succès. Le mois de mars 1766 est une catastrophe et cela va durer jusqu'à la fin du printemps 1767, entre période d'accalmie et recrudescence. Le 19 juin, aux prémices d'un été qui s'annonce déjà chaud, un homme, Jean Chastel, fait partie d'une équipe de battue organisée par un marquis local, tout près du Mont Mouchet. Une balle et 5 chevrotines dans son fusil, et c'est tout. Pourtant, alors qu'il s'est séparé de la troupe, il se retrouve nez à nez avec une bête gigantesque, presque 2 fois plus grande qu'un. Les rumeurs étaient donc vraies. Elle est là. Sans attendre, Jean attrape son arme et tire. Il la blesse à l'épaule. Mais cela ne suffit pas. Elle se relève. C'est là que les chiens du marquis nombreux arrivent en trombe et lui sautent dessus. Selon la légende, en se relevant à la suite de son tir presque victorieux, Chastel s'exclame « Bête, tu ne mangeras plus !» Fin de l'histoire cette fois. Une semaine plus tard, une louve, qui selon plusieurs témoins accompagnait le monstre, sera traquée puis tuée. Cette fois, l'Auvergne semble avoir retrouvé un semblant de calme et de sérénité. La dépouille de la bête, de nouveau, est conduite à Versailles. Un témoignage nous éclaire sur les réactions que cela suscite. Ni le roi, ni la cour ne la verront. À leur place, ce sera Buffon, le grand naturaliste. Le roi se trouvait pour l'heure à Compiègne, et d'après la nouvelle qu'on lui apprenait, il donna ordre à Monsieur de Buffon de visiter et d'examiner cet animal. Ce naturaliste, Malgré le délabrement où l'avaient réduit les vers et la chute de tous les poils, suite des chaleurs de la fin de juillet et du commencement d'août, malgré encore la mauvaise odeur qu'il répandait, après un examen sérieux, jugea que ce n'était qu'un gros loup. Le monstre ne serait-il donc qu'un animal classique, juste un peu démesuré de taille et enragé? Les hypothèses, comme vous allez l'entendre, sont nombreuses et parfois farfelues. La première des explications, bien entendu, serait d'avoir eu affaire à un ou plusieurs loups réunis en meute. C'est la thèse défendue par de nombreux auteurs contemporains à la bête, et leur thèse est renforcée par les propos du naturaliste Buffon, comme nous l'avons entendu précédemment. Oui, mais voilà. Ça ne tient que peu la route, cette histoire. Si les loups anthropophages existent dans les contes pour enfants, il paraît impensable, et n'importe quel zoologue pourrait vous le dire, qu'un loup, aussi gros et affamé soit-il, s'attaque avec autant de familiarité à l'homme. Ils en ont peur. Bien, mais une fois qu'on a dit ça, on ne se trouve pas plus avancé sur la bête. Alors, quelles sont les autres options? D'autres experts en déduisent que le canidé des attaques aurait donc été préalablement dressé pour tuer. Cela expliquerait que deux bêtes aient été abattues. Mais là encore, aucun élément très concret existe pour défendre cette théorie avec solidité. Certains pensent également que le monstre n'était pas un canidé. Beaucoup évoquent une hyène, un animal très agressif et ressemblant à un gros chien. Il est possible d'envisager qu'elle se soit échappée d'une ménagerie ou qu'elle ait été ramenée d'Afrique. D'autres fois, un ours, un lynx ou un tigron, croisé tigre et lion, ont été des pistes explorées, mais ces animaux n'ont physiquement rien en commun avec le monstre décrit par les survivants. La dernière des théories qui reste dans le prisme du rationnel est celle d'un tueur sadique. Après tout, quelle bête serait capable de décapiter certaines de ses victimes et d'en emporter la tête pendant une semaine? Aucune, selon certains experts. Cela ne pourrait être que le comportement d'un sadique qui, déguisé en bête, aurait commis les pires méfaits. Il faut cependant reconnaître que cela ne colle pas non plus avec les témoignages récoltés tout au long des attaques. Le mystère reste donc encore aujourd'hui entier. Je vous propose de nous quitter en évoquant les théories qui, elles, sont plus irrationnelles. Certains ont écrit avoir vu à plusieurs reprises un homme se transformer en bête, à la manière d'un loup-garou. Autre hypothèse, défendue par les religieux contemporains aux monstres. Ce dernier serait un animal de Dieu ou du diable, c'est selon, envoyé pour purifier la population locale de ses péchés. Tout un programme. Enfin, un chercheur a récemment mis au jour la théorie selon laquelle un animal préhistorique, l'émission, un mammifère à mi-chemin entre l'ours et le loup, aurait survécu jusqu'aux années 1760. La probabilité de cette hypothèse est ici quasi nulle. Même si ce chercheur affirme que cet animal vivrait encore dans les confins du Canada et que les autochtones sur place l'appellent Wahila, aucune trace de son existence n'a pu jamais être exploitée. Il reste une dernière hypothèse, peut-être plus folle que toutes les précédentes réunies. C'est celle soutenant que la bête du Gévaudan n'aurait jamais existé. Elle est défendue aujourd'hui par de nombreuses personnes, mais là encore, ça ne semble pas coller. En effet, comment qualifier de canular ce phénomène qui a causé le décès d'une centaine de victimes, toutes attribuées à la bête, et les plus de 200 attaques qui ont donné lieu à de nombreux témoignages? Il est peu probable que rien ne se soit passé. En tous les cas, comme vous pouvez le constater, le mystère reste entier. Canidé, animal dressé pour la chasse à l'homme, ours, hyène, animal préhistorique ou loup-garou. Je vous laisse avec ces éléments de réflexion. Ils vous permettront de vous faire votre propre opinion sur cette affaire qui, près de 300 ans après, continue de faire couler beaucoup d'encre. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.